citoyenne.
Le magazine de la rédaction de Jet.
Mobilisation sociale et citoyenne.
Écologie économie sociale et solidaire. En pays nantais et au-delà.
Mégaphone, le magazine de la rédaction de Jet.
Tous les mercredis à 18h et sur jetfm.fr.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau mégaphone où il va être question d'histoire, de contes et plus particulièrement d'héroïnes. Alors avec nous aujourd'hui, nous avons Khadija Hassala, professeure à l'université de Fès au Maroc, qui a eu l'honneur d'être la marraine du 3e festival des héroïnes des 7 lieux.
Bonjour.
Ensuite, nous avons Anne-Gaëlle, la co-organisatrice du festival Héroïnes des 7 lieux, qui est aujourd'hui, c'est la 3e édition, qui a lieu donc depuis le 27 juin et jusqu'au 15 juillet. Bonjour Anne-Gaëlle.
Bonjour.
Ce festival, il a pour ambition de s'efforcer de développer la connaissance autour de l'art du récit et de faire un peu bouger les lignes autour des héroïnes.
C'est ça, on voulait parler des femmes qui comptent dans tous les sens du terme, ces femmes, ces héroïnes de récits, de la mythologie, de contes, qui sont, contrairement à ce qu'on pense souvent, quand on ne connaît pas le conte, on dit « Oh là là, le conte, c'est une fille qui attend sur son lit qu'on vienne la délivrer ». Et en fait, il y a plein de femmes, d'héroïnes intelligentes, rusées, puissantes, vraiment magnifiques. On avait envie de faire connaître ça et puis de faire connaître aussi les femmes et les héroïnes de ce quartier précisément, qui contribuent à ce que ça soit un peu moins comme aujourd'hui à feu et à explosion.
Et pourquoi le conte particulièrement ?
Ah, parce que c'est mon boulot. Moi, je suis conteuse et la compagnie avec laquelle je collabore depuis 33 ans, la compagnie La Lune Rousse, a été créée vraiment pour travailler sur les arts du récit et sur l'oralité.
Et Khadija Hassala, vous êtes donc la marraine de cette 3e édition. Quel genre de conteuse êtes-vous ?
Je dirais, je suis conteuse qui n'a pas de genre. Je ne rentre pas dans un cadre spécifique, bien tracé. Je suis conteuse, mais je suis aussi militante dans le conte pour une cause qui est la cause féminine, d'où ma présence est ici, d'où le fait que on m'octroie l'honneur d'être la marraine, parce qu'on a envie aussi que ces femmes, nous comptons, mais on veut que ces femmes comptent, C-O-M-P-T-E-N-T, comptent par ailleurs, parce qu'elles ne sont jamais prises, je dirais, pas toujours prises en considération, on connaît pas leur juste valeur. Et le conte, notre travail en tant que militante du conte et la Croix Rousse, la Lune Rousse, pardon, fait ce travail dans ce sens.
Parce que c'est ça, au Maroc, toi, en dehors de tes étudiants à l'université de Fès, c'est de faire connaître. Travailler sur le collectage et de militer pour l'oralité, l'éducation des petites filles et tout ça.
Et est-ce que votre rapport au conte, il remonte à longtemps ? Vous avez eu un déclic dans votre enfance, Khadija ?
Tout à fait. Moi, je suis issue d'une tradition orale et d'une famille qui comptait. J'avais un grand-père qui comptait, ma mère après, mon père. Donc, j'ai grandi dans ça. Et après, mon travail sur le conte a pris d'autres formes, d'autres pistes, mais c'est toujours le conte.
Il y a un peu cette dimension interculturelle dans cette 3e édition. Vous me disiez tout à l'heure en off que vous étiez rencontrés dans le désert avec Khadija.
Oui, on s'est rencontrés dans le désert.
Comment vous êtes rencontrés comment ça s'est passé et pourquoi
Il y a un festival de contes dans la ville de Zagora, qui est vraiment une ville en bordure du Sahara. Et voilà, j'ai été invitée dans ce festival, j'y suis allée et entre autres j'ai rencontré trois femmes géniales, Khadija, qui est là devant vous. J'aurais voulu qu'elles viennent toutes les trois, mais Khadija, Saïda et Wafa, qui sont toutes les trois des femmes extraordinaires, avec une culture phénoménale et en même temps une curiosité et en même temps une modestie. Je suis tombée amoureuse de ces femmes et j'ai dit, je voudrais qu'elles viennent.
Et vous, c'est comme ça que vous l'avez vécu aussi, votre rencontre ?
Tout à fait, sinon plus. J'étais au festival avec mes étudiants et moi, à chaque fois que je rencontre un spécialiste ou une spécialiste qui était le cas, une professionnelle comme Anne Gaël, je lui ai posé la question, est-ce qu'elle pouvait encadrer mes étudiants le temps d'une heure ? Et là, elle les a prises pendant 3 heures. Et mes étudiants parlent d'elle toujours en des termes très élogieux. Donc, c'était comme ça que ça s'est passé. En plus, vous savez que quand vous faites ces rencontres, c'est aussi il n'y a pas uniquement le festival en lui-même, mais c'est aussi ces belles rencontres que nous vivons aussi avec le conte et dans le conte et par le conte.
Et justement, ces rencontres et cette dimension interculturelle, est-ce qu'il y a une articulation, est-ce qu'il y a quelque chose qui nous lie particulièrement au Maroc, nous, en France, et autour du conte? Est-ce que cette articulation, elle s'est encore plus ressentie avec le conte?
Je ne sais pas. On a une histoire avec le Maroc, c'est sûr. Et puis après... je dirais que il existe dans le monde plein de d'endroits où le conte a été vraiment le véhicule de la culture, de l'apprentissage, que ça soit de l'apprentissage de l'oralité, mais que ça soit l'apprentissage des savoir-faire, des relations sociales, du fait d'être à la fois un individu et en même temps une collectivité. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a plein d'endroits dans le monde où c'est une dimension importante et que quand on se rencontre, on voit bien que on parle une langue commune, même si on a des langues différentes. On parle une langue commune qui est une langue de, le conte, il me semble, est quand même vraiment un art de la relation à soi-même, à l'intérieur de soi-même, à la collectivité, mais aussi à la nature. Dans les contes, on parle avec les animaux, avec les arbres, et on n'est pas si différents. Et donc, j'ai l'impression c'est interculturel parce que c'est comme ça. Tous les êtres humains se racontent des histoires. Il existe, je pense, pas de société sans histoire. D'ailleurs, le voudrait-on qu'on en serait incapable? On passe son temps à se raconter des histoires. On se raconte qu'on est heureux, malheureux, qu'on est le plus fort ou bien que je sais pas quoi. On se raconte tous des histoires. Et voilà. Et ça, c'est ça qui fait qu'on est une société, j'ai l'impression.
Moi, j'ajouterais que ce que tu viens de dire, Anne-Gaëlle, c'est que l'articulation interculturelle se retrouve dans l'humain. Nous sommes tous des humains, nous partageons quelque chose, quelles que soient nos différences, ne serait-ce que le fait de voyager. Quand on voyage, on revient, on raconte ses récits. C'est comme ça qu'a commencé l'humain, et c'est partout pareil. La question posée par les anthropologues, le lien de parenté entre certains contes. Pourquoi nous avons Cendrillon en français et nous avons Aïcha Armada en arabe? Armada, c'est les cendres aussi. Et donc, ça veut dire que nous partageons quelque chose d'humain entre nous. Là où il y a le bonheur, ou là où il y a le malheur, la misère, la richesse, la vie, la mort... Tout ça, c'est des éléments que nous partageons et c'est ce qui fait ce relationnel interculturel.
Et justement, vous parliez d'histoire tout à l'heure et d'un peu de la place des femmes dans les contes. L'image qu'on a souvent du conte, c'est une princesse un peu nunuche qui va être sauvée par un prince et par exemple, typiquement Cendrillon, la Belle au bois dormant plutôt. Comment, par ce festival ou par le conte, vous pensez que ça peut être un moyen, une arme pour déconstruire ça et proposer d'autres modèles et peut-être avoir un poids dans le basculement des mentalités, notamment auprès des jeunes enfants c'est à ces âges-là où il y a toutes les constructions.
Il y a une conteuse qui est invitée dans le festival et qui va intervenir samedi, Karine Mazel, et qui dit « les contes sont trans ». C'est un peu provoque dit comme ça, mais c'est vrai. C'est-à-dire que ça traverse toutes ces stéréotypes-là. Et en réalité, quand tu écoutes un conte, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est beaucoup plus, comment dire, il y a beaucoup plus de nuances et c'est beaucoup moins blanc ou noir qu'une série Netflix en réalité. Et si on prend La Belle au bois dormant, on a le choix, on peut effectivement dire, comme on le fait souvent quand on le regarde comme ça, vite fait, oh là là, c'est une pauvre fille qui attend qu'on vienne la délivrer. Mais on peut aussi, et moi cette histoire me touche terriblement parce que je me dis, serait-il possible qu'en chaque être humain, que ce soit un homme ou une femme, il y ait une princesse? Je veux dire, moi je dirais l'âme. Mais on aurait plein de mots pour dire ça, mais quelque chose, chaque être humain a quelque chose d'infiniment précieux et qui, c'est bien vrai, pendant tout un temps, dort. Franchement, dort. Et il faut qu'il y ait une partie de nous, on peut l'appeler prince, on peut l'appeler ce qu'on veut, mais qui vienne réveiller ça chez nous. Et donc, j'espère bien qu'on a tous ça. Voilà, et ça parle pas d'une fille en réalité. Voilà, il y a des études qui ont été faites justement sur la Belle au bois dormant qui disent que dans certaines versions on parle, en fait c'est la nature, on parle de la terre qui à des moments se réveille. Et puis à des moments, il y a des histoires, il y a des versions de la Belle au bois dormant où elle fonctionne avec la lune. Elle croît et elle décroît avec les cycles. Donc, on est dans des représentations symboliques et cosmiques et pas dans du fait divers. Alors, dans le festival, on fait entendre des récits et on prend souvent, comme ça, de manière un peu informelle, mais le temps de causer après. Justement, pour échanger là-dessus, pour... des fois, il y a des trucs qui nous choquent dans les contes. Ben, c'est bien. C'est bien d'être choqué, c'est bien d'être furax et de dire « mais c'est quoi ce truc? Pourquoi tu racontes ça, putain ?» Et là, du coup, on discute et le conflit dans ce cas-là est très bon.
Et vous, Khadija, vous pensez que justement le conte, ça peut être un outil pour faire un peu basculer tout ce qui est l'ordre établi du patriarcat et dans la société et peut-être la conception qu'on a en tant que peut-être jeune fille? Quand on lit un conte et les imaginaires qu'on va se créer à partir de ce conte et les représentations qu'on va avoir.
Moi, je rebondis rapidement sur l'imaginaire que vous avez dit. Justement, il n'y a que le conte, je crois, qui peut permettre ça. Pourquoi ? Parce que c'est un récit anonyme, ça n'appartient à personne, ça n'a pas de point de vue, seulement le sien. Du conte, et du coup, chacun et chacune de nous peut construire son point de vue à partir de ce qu'il sait, de ce qu'il connaît. Moi, je travaille beaucoup dans les écoles primaires, dans le rural au Maroc, et des fois, quand je raconte une histoire sur les filles, Je suis agréablement surprise des réactions des petites filles du village qui me disent « Non, moi, je ne veux pas me marier, je, J'ai envie de continuer mes études. Je ne veux pas être comme cette princesse. Mais je lui ai dit, c'est une princesse. Oui, mais elle est princesse, mais pas moi. Et ça, pour moi, c'est merveilleux. Ça, c'est du merveilleux.
Mais c'est vrai qu'on n'a pas de princesse qui fait des études et qui devient un peu... Enfin, maîtresse un peu de son avenir, et c'est toujours, elle est toujours dans l'attente de ce prince, et pour moi, enfin, je sais pas, mais peut-être qu'être une princesse, il manque peut-être cette représentativité de ce type de princesse. De
faire je suis pas d'accord, hein. Je crois que de la même manière que dans la société civile, disons, les femmes puissent, on a entendu hier le récit de Marie Curie,
oui.
Et c'était génial d'entendre que son premier prix Nobel, il devait être accordé à son mari, et son mari a dit, mais parce qu'on disait, on nomme pas les assistantes. Il a dit, mais c'est moi l'assistant. Parce que c'est elle qui a fait la découverte. Voilà. En fait, les femmes puissantes, on pourrait dire, ont été assez invisibilisées dans l'histoire. Mais dans les contes aussi, on ne parle pas. Il y a des tonnes d'héroïnes de contes qui sont d'une richesse, d'une profondeur, d'une puissance. Passionnante, mais on les connaît pas.
Vous avez un exemple?
Eh ben, justement, j'y pensais en t'écoutant, tu vois. On a entendu Neza. Comment tu dis Neza?
Neza.
Neza. Qui racontait une histoire arménienne l'autre jour, qui est l'histoire d'un homme qui tombe amoureux d'une jeune fille. Il est prince. Il veut se marier avec elle. Elle lui dit d'accord, mais c'est quoi ton métier? Ben, il dit, je suis prince. Je dis, c'est pas un métier, ça, parce que moi, j'épouse pas quelqu'un qui sait pas faire quelque chose. Et c'est elle qui va être à l'origine du fait qu'il va apprendre à tisser, voilà. Et, bah, par exemple, voilà, elle le fait bouger. Mais si on prend un de mes personnages favoris de la littérature orale, c'est la vieille Baba Yaga, c'est une femme d'une puissance et une initiatrice. On en a fait une saleté. Une sorcière dans le sens mauvais du terme, mais franchement c'est une initiatrice. Et je discutais avec une conteuse l'autre jour qui me disait, je suis très embêtée, il y a un conte que j'adore, j'ai essayé de le triturer dans tous les sens parce que ça m'énervait, lui c'est un frère et une sœur.
C'est quel conte?
Je sais plus, mais c'est un frère et une sœur, lui il part à la chasse et elle garde le foyer. Alors j'ai essayé de faire, j'ai trituré tout dans tous les sens, et tout d'un coup, au bout de plusieurs années, je me suis dit, c'est pas parce qu'on vit depuis des centaines d'années dans une société patriarcale que dans les contes, la femme s'occupe du foyer. C'est parce que depuis des centaines d'années, on vit dans une société patriarcale qu'on considère que le foyer, c'est de la merde. Mais le foyer, c'est quand même, c'est le feu. C'est le truc le plus central, le plus sacré, tu vois. Et donc, en fait, il y a un espace de renversement. Pour moi, les contes sont vraiment des outils trans, oui, mais aussi de révolution, quoi.
Et peut-être que, justement, en parlant d'outils de révolution, comment ça peut... Enfin, est-ce que le conteur ou la conteuse a un poids dans cet outil de révolution et transmettre? Parce que souvent, comment on raconte une histoire, c'est un impact.
C'est aussi notre rôle. C'est... moi personnellement, j'adapte mes contes. Je disais tout à l'heure, quand je vais dans des écoles, je vais pas répéter les stéréotypes, les préjugés et tout ça. Moi, j'adapte aussi mes contes à mon public, parce que je considère qu'il est aussi de mon rôle de sensibiliser, de conscientiser les enfants, que ce soit garçons ou filles, parce que on est dans le même pétrin, je vais dire. Et donc, il y va aussi de ma fonction et de mon rôle de transmettre, parce que je ne transmets pas uniquement l'histoire, mais tout ce qui est contenu dans l'histoire.
Tu sais, les contes qui se sont transmis comme ça à l'oralité, quand ils ont été notés dans des livres, ils ont été notés à une époque par des gens.
Donc, c'était des hommes qui écrivaient souvent.
En plus, voilà. Et puis, qui étaient plus ou moins surveillés. Si tu prends Perrault, par exemple, il avait quand même un peu peur du pouvoir. Et donc, voilà. Bon. Donc, ils les ont transmis comme ça. Mais en fait, ces morceaux-là sont des morceaux d'oralité. On les réinvente sans cesse. Ça s'est fait depuis des milliers d'années. Hein, 5000 ans avant Jésus-Christ, on racontait déjà. Voilà. Et donc, chaque conteur, pour moi, un conteur, est forcément politique dans le sens noble du terme, c'est-à-dire qu'on raconte pas des conneries. J'ai rencontré un jour une femme allemande qui travaillait sur un récit qui s'appelle du Nord, qui s'appelle l'anneau des Nibelungen. C'est une histoire. C'est Wagner a travaillé là-dessus. On est dans une histoire un peu sombre avec les voilà. Et elle a travaillé presque toute sa vie là-dessus. J'ai entendu son récit final. On n'était que des conteurs à l'écouter ce jour-là. C'est un très long récit. Et quand elle a terminé, on l'a applaudi et elle a dit « Ça y est, j'ai fait ce que j'avais à faire, je vais changer de métier. » Et on lui a dit « Mais pourquoi ?» Et elle nous a dit « Mes parents étaient nazis. » Et l'idéologie nazie a, pour embarquer, l'Allemagne était quand même un pays de gens très cultivés. C'était un des pays les plus cultivés d'Europe. Ils sont quand même tombés dans le piège. Et ils sont tombés dans le piège, entre autres, il y a plein de raisons, mais entre autres parce que les nazis ont été assez habiles pour tordre comme ça la mythologie et l'imprégner de ça. Et en fait, elle a passé toute sa vie à détacher, délaver un peu d'une certaine manière, dénazéifier ce récit. Et c'était vraiment impressionnant, quoi. Évidemment, on est responsable de ce qu'on dit. Je peux pas dire, moi, elle avait l'âme noire, aussi noire que sa peau. À un moment, je me dis, bon, peut-être que on va dire autrement.
Et vous, Khalitcha, vous avez, j'ai vu que vous étiez militante pour la scolarisation de la petite fille dans le milieu rural. Quelle est la place du conte dans le milieu rural? Vous en disiez un petit peu tout à l'heure.
Voilà. Alors, j'ai tout un répertoire sur les filles qui n'ont jamais été à l'école et les filles qui ont été à l'école, les garçons qui ont été à l'école ou qui ont été scolarisés. Donc ça dépend de l'âge des enfants. J'adapte mes contes. Quand c'est des tout petits enfants, après quand on aura raconté, quand on a raconté le conte, je leur donne des exercices, si vous voulez, libres. Et souvent, j'ai des retours très surprenants dans le bon sens du terme. Les filles qui dessinent une fille avec un cartable, c'est très significatif. Ou avec un livre, un crayon, c'est-à-dire la référence est faite toujours à la scolarisation. Et donc, je pars du conte parce que c'est l'élément, on va dire, textuel, le plus simple à faire passer.
Et peut-être le premier aussi quand on est petit.
Mais oui, et puis ça les rend participatifs. Parce que dès que je commence des fois à raconter un conte, il y a quelqu'un qui se lève et qui dit « Ah, ce conte, je le connais parce que ma grand-mère me l'a raconté. » Ou ma tante. Alors je lui dis « Tu passes le raconter devant tes camarades ?» Et là, il y a une prise de parole. Et à partir de cette prise de parole, il y a aussi une prise de position. Et il y a une appropriation et de l'espace et du contenu. Et puis les autres aussi s'identifient à leurs camarades en se disant « Ah ben oui, moi je connais aussi, j'aurais pu être à sa place et faire... » Et donc, du coup, il y a une dynamique qui se crée autour du conte. Après, la suite, je leur dis « Vous allez dans vos familles et vous leur demandez de vous raconter toutes les histoires qu'ils connaissent autour de ça. » Et je fais un suivi. Après, je reviens une semaine après ou 10 jours en me mettant d'accord avec l'instituteur ou l'institutrice pour collecter ce que les enfants ont ramené. Et les enfants sont participatifs du moment qu'il s'agit du conte. C'est un élément qu'il maîtrise plus ou moins. Voilà.
On va écouter un morceau choisi par Anne-Gaëlle et Ralitcha. Est-ce que vous pouvez me dire un petit mot sur... c'est un artiste, Swan Massy, qui a écrit et qui parle du conte. Quel est le nom de cette composition? Est-ce que vous pouvez me raconter un peu de quoi parle cette chanson?
Effectivement, c'est Swan Massy, qui est une chanteuse, je dirais, maghrébine, qui a une très belle voix.
On avait son guitariste l'autre jour, ouais, qui accompagnait des A.
Oui, Mokran.
Oui, Mokran.
Oui, oui, oui. Elle est, donc, et justement, elle aussi, elle s'intéresse beaucoup au patrimoine oral. Et elle chante cette belle chanson, Yarraoui Hkili Hkaya, c'est-à-dire, ô conteur, conte-moi un conte. Voilà, et je vous laisse découvrir la chanson. Il y a des paroles aussi traduites en français.
حكي يا راوي حكي حكاية مادا بيك تكون رواية حكي لي على ناس زمان حكي لي عيال في ليلة وليلة ولا لونجة بنت الغولة ولا ولد السلطان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ما جيتك واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية احكي وانسى باللي احنا كبار في بالك اللي رانا صغار ونمنو كل حكاية احكي لنا على الجنة احكي لنا على النار ولا الطير اللي عمره ما طار فهمنا معنى الدنيا حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية حكي يا راوي كيما حكى ولك ما تزيد ما تنقص من عندك كالي شفا ولا بلاك حكي ونسينا مهاد زمان خلينا في كان يا ما كان في كان يا ما كان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية
d'entendre Rawi, une chanson écrite par Assanoua Massi. Nous sommes toujours sur Jet FM avec Anne-Gaëlle Goduchot, co-organisatrice du festival Les Héroïnes de Sept Lieux, et Khalidja Asala, la marraine de ce même festival qui a lieu en ce moment jusqu'au 15 juillet à Bellevue. Justement, pourquoi avoir choisi les quartiers et les quartiers populaires pour cette thématique autour du conte? Quelle est la place du conte
Parce que les quartiers populaires souffrent des mêmes a priori, souffrent beaucoup d'a priori, les contes aussi. Donc il y avait ça. Et puis il y a aussi que la compagnie La Lune Rousse est installée dans ce quartier depuis des années, la compagnie La Lune Rousse qui est donc organisatrice du festival. Et donc voilà, on s'est apprivoisé avec le quartier, avec les habitants, avec les habitantes, dont on s'est rendu compte qu'elles étaient vraiment au quotidien des genres d'héroïnes aussi. Et donc ça nous a paru vraiment intéressant et chaleureux. On en parlait tout à l'heure avec Khadija. C'est quand même vraiment bien. Chaque spectacle est accueilli par des gens, par des associations qui accueillent le public en disant voilà, nous on est Arlène, nous on est Rapi, nous on est les femmes en file et voilà ce qu'on fait. Et c'est une manière aussi d'honorer tout ce travail de fourmi et qui est fait par des gens qui en général la ramènent pas, quoi. Et quand je dis des gens, des femmes en réalité, qui ne la ramènent pas. Et donc, il y a quelque chose de très chaleureux dans ces quartiers qui, à mon avis, est plus difficile à trouver ailleurs.
Je peux ajouter un mot? Moi, je suis très admirative de ce travail que fait la Lune Rousse, parce que c'est un travail rayonnant. Ça fait rayonner tout Nantes. Quand on travaille, la Lune Rousse aurait pu faire son festival toute seule et dire on fait, mais non, ils se sont ouverts sur les autres associations et les autres associations les ont accueillis. C'est formidable, ce travail de coordination, de partenariat, d'association. C'est quelque chose, je ne sais pas si ça se fait par ailleurs, mais en tout cas, bravo mesdames, les héroïnes.
Et justement, les héroïnes, est-ce que vous avez deux dates en particulier à
là,
présenter
y en a, ou y vous y intervenez par ce week-end, ça va être un peu plein, mais mardi 3, on a organisé dans un endroit qui s'appelle le Plan B à Bellevue, près de la place des Lauriers, une chose qu'on a appelée la, comment tu dis,
halqa.
Halqa, ça veut dire
halqa, le cercle
des conteurs. Là, on convie qui a envie à venir raconter ou écouter. On va se mettre en cercle, pas en frontal comme dans un spectacle. Et puis voilà, échanger. Ça, c'est lundi 3. Ah, le 5, on a une fanfare de filles avec des trombones, des batteries et tout ça. Elles vont mettre le feu. Le 6, c'est une conteuse qui va raconter une histoire géniale qui s'appelle Le Roi des Corbeaux. Et le 9, c'est une balade contée. Et pour les gens qui sont curieux et qui ne sont pas gênés de marcher, on va partir d'ici. Des bâtiments du Grand B. Et puis, on va aller en découverte dans le Boisgeau. Donc, on sera guidé sur la faune, la flore du Boisgeau. Et puis, à un moment, on s'installe sur des chaises longues et on écoutera une histoire qu'on trouve à la fois en Roumanie, mais à la fois en Inde, mais à la fois dans plusieurs pays, qui s'appelle « La vaillante des vaillants ». Et qui est une histoire d'une, justement, alors là pour le coup, d'une héroïne extraordinaire et flamboyante.
Et comment vous allez faire, j'imagine que vous voulez être le plus inclusif possible, et comment vous faites pour casser cette barrière, justement, vous disiez de ne pas être dans quelque chose de vertical mais horizontal, de casser cette barrière entre spectatrice, spectateur et artiste.
Le conte fait ça naturellement, je ne sais pas comment l'expliquer, mais moi qui ai une formation au départ, j'ai une formation et un métier de comédienne, et quand on est comédien, après le spectacle, on peut se rencontrer avec les gens, au bar ou quoi, mais il y a toujours une relation qui est une relation d'admiration, on pourrait dire. Non, j'étais spectateur, toi tu étais sur la scène un peu plus haut, et puis voilà, je viens te parler de ton travail qui était génial et tout ça. Quand t'es conteur, les gens viennent te parler, mais en général ils te racontent leurs histoires. Ils te disent, ah, ce que vous avez raconté, ça m'a fait penser que... Alors moi aussi, dans ma... Hier, la conteuse racontait Marie Curie. Et il y a une femme qui est venue lui dire, ah, mais moi j'ai pleuré en vous écoutant parce que quand je suis arrivée en France pour trouver du travail, on m'a dit, Amina, ça va pas, il faut que tu t'appelles Annie. Tu changes de nom. Alors je dis, si c'est pour trouver du travail, je veux bien changer de nom, mais quand même. Voilà. Et donc, il y a quelque chose qui est... Comment dire si c'était pas un mot galvaudé, je dirais éminemment fraternel ou sororal dans le conte qui fait que la barrière, elle n'existe pas, en fait. Je ne sais pas l'expliquer. Pourquoi ?
Tout à fait.
Mais c'est un fait.
Tout le monde se retrouve dans le conte. Chacun à son niveau, mais à sa manière, mais... chacun de nous se retrouve quelque part, s'identifie soit au personnage, soit à un événement, soit à un espace. Donc il y a une certaine identification dans le conte. D'ailleurs, le principe de la halqa, le cercle, c'est que, effectivement, il y a le conteur qui, on va dire, s'accapare la parole pendant un temps, mais après, il passe la parole à tout le monde. Et là, il y a des gens qui défilent dans le cercle et qui racontent. Donc, il n'y a pas de barrière, finalement. Même fictive, il n'y en a pas.
Et tu vois, c'est une parenthèse, mais sur cette chose que chacun a un conte, tu vois, c'est toujours, il était une fois un roi, une reine, un jeune homme, une jeune femme, un enfant. Pratiquement jamais, ils ont de prénoms. Rarement, ou alors c'est des prénoms un peu génériques que tout le monde a. Et certains prétendent, en tout cas pour le conte merveilleux, que en réalité, le roi, la reine, le cheval, la forêt, la sorcière, le nain, le je sais pas quoi, c'est en fait des parties de nous. On est la forêt. On est le cheval et cet oiseau d'or ou de feu et cette pomme merveilleuse et cette princesse et ce prince et cet idiot. On sait bien qu'on est quelquefois vraiment complètement con et voilà, ça nous appartient. Et donc, parce qu'ils ne sont pas trop identifiés, ils nous laissent rentrer quoi, dedans, quelque chose comme ça.
Donc le conte, c'est des histoires de partage, de rencontres et... de réappropriation. Est-ce que vous avez des héroïnes, vous, qui vous ont marqué, peut-être plus jeune ou encore aujourd'hui, et qui font que vous êtes autant passionnée des contes, vous ?
Personnellement, moi, je suis tout le temps entourée d'héroïnes qui me marquent par quelque chose. Moi, depuis mon enfance, j'étais marquée par la présence de femmes héroïnes. Moi, je suis sur un travail que j'ai appelé portrait de femme. C'est des femmes que j'ai connues personnellement, soit dans la famille, soit dans le voisinage. Elles ont toutes le même dénominateur commun. Elles n'ont jamais été à l'école. Mais c'est des femmes gaillardes, c'est des femmes héroïnes, dans le premier sens du terme, ça étant enfant. Et puis après, à l'école, à l'université, et tout ça, j'avais toujours un exemple. J'avais toujours un modèle devant moi. Et jusqu'à maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, quand je vais dans le rural, je vois ce genre de femmes qui existent encore. C'est des femmes qui se battent au quotidien pour le bien-être des autres. Qui sont dans le partage, dans la solidarité. Et ça, ce courage, cet altruisme, moi, ça me fascine et je les considère des héroïnes.
Donc, il n'y a pas vraiment un nom, un personnage ou une personne, c'est vraiment les héroïnes du quotidien.
Voilà.
Et vous, Anne-Gaëlle Goduchaud ?
Juste, ça me fait penser ce que tu dis, que depuis plusieurs années, je fais des portraits audio de femmes du quartier, que j'ai appelées donc héroïnes du quotidien. Et donc, tu peux aller écouter, télécharger ça si tu vas sur l'audioblog de Arte. Tu tapes audioblog Arte, héroïne du quotidien, et tu tombes sur des dizaines de portraits de femmes. Voilà. Moi, j'ai été fascinée quand j'étais petite par plein d'héroïnes de la mythologie. de la mythologie, et puis aussi de, par exemple, j'étais fan complètement de Helen Keller, qui était cette femme qui a qui était aveugle et qui s'est battue pour que on puisse quand on était aveugle à ce moment-là on était remisé dans les asiles de fous quoi et alors pour que les gens soient éduqués mais Makeda la reine de Saba c'est quand même une héroïne terrible et puis depuis très longtemps mon héroïne préférée de tout du monde entier des contes c'est Baba Yaga. Je suis fan de ce concentré de vie. Elle est vraiment, il y a très peu de personnages et franchement je connais pas dans les contes de personnages masculins qui soient aussi forts. C'est-à-dire qu'elle est vraiment, elle se tient à cheval sur les deux rives de la vie, de la mort, de ce qu'on pourrait appeler le bien, le mal, elle commande aux éléments, au temps, c'est vraiment, j'espère, mon ambition, c'est de devenir, en vieillissant, une Baba Yaga.
Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les infos pratiques de ce festival? Comment ça s'organise? Où c'est gratuit, je crois. Pour...
Oui, tu peux. Les places sont gratuites. Il faut quand même réserver parce que les lieux sont comme on l'a compris des lieux un peu insolites et pas faits pour le spectacle normalement. Donc les jauges sont petites. Il faut réserver. Le mieux c'est d'aller sur le site de la Lude Rousse ou bien la billetterie, elle est très facile à trouver. Il faut taper LOASO Compagnie La Lune Rousse et on tombe sur la billetterie des héroïnes de cet lieu. Comme ça, tu réserves, tu as l'adresse précise, tu reçois, tu as un billet et nous, comme ça, on... Parce que mardi, par exemple, c'est arrivé que la salle était déjà pleine et tout d'un coup, il y a deux fleuves de public qui sont arrivés. On s'est dit, oh, comment on va faire? Donc, on a réussi, mais il vaut mieux réserver, oui.
Et c'est jusqu'au 15 juillet, c'est ça?
Oui.
La Lune Rousse, c'est la compagnie qui organise cet événement. Et il y a un peu la bête de scène magique.
Oui.
Il y a une place. Qu'est-ce que c'est, la bête de scène?
Alors, une fois que les héroïnes vont être terminées, on va avoir un ou deux jours de pause. Et ensuite, on passe à une programmation dans les espaces verts, les parcs du Grand Quartier, la Bellevue, avec cet engin incroyable qui s'appelle la Bête de Seine, qui est une scène nomade, une scène mobile, qui ressemble à un poisson, une grenouille, enfin quelque chose comme ça. Donc, c'est une bête avec des yeux, des nageoires et une gueule. Quand elle ouvre la gueule, c'est une scène. Et là, on reçoit des conteurs du monde entier. On s'installe, des tapis, des chaises longues, des bouquins, des jeux. Depuis quelques années, il y a une masseuse pour que tu peux venir te faire masser. Tout ça est gratuit, hein, est offert. Il va y avoir cette année plusieurs fois des ateliers d'écriture. Tu vas pouvoir venir jouer avec la langue et inventer des textes et tout ça. C'est vraiment un endroit à la fois pour voir des spectacles et aussi pour être ensemble. Hein, voilà. Donc cette bête a été créée pour Bellevue. Alors elle se balade maintenant ailleurs, mais voilà, pour que on puisse, et tu vois, c'est d'actualité là en ce moment, le quartier est avec les événements et la révolte des jeunes gens, il y a eu des départs de feu, des coups de feu toute la nuit et tout ça. Quelquefois le quartier bouillonne, mais nous, d'une certaine manière, artistes, poètes, tout ça, notre boulot, je trouve, c'est aussi de proposer des espaces de paix. Voilà, donc la bête de scène, c'est ça. Comment on dit « il était une fois » en arabe ?
« Kan yamakan ».
Oh, c'est beau ça, oui. « Il était une fois ».
Il était une fois, « Kan yamakan ». Donc je disais, c'est merveilleux, donc à consommer sans modération.
Merci beaucoup Khalidja Asala et Anne-Gaëlle Gauduchot d'avoir été présentes aujourd'hui. On rappelle, le festival Héroïne de sept lieux se déroule à Bellevue, un peu partout, jusqu'au 15 juillet. Vous pouvez réserver sur le site La Lune Rousse. Bonne soirée sur Jet.
Merci.
Merci.
Mégaphone.
le magazine de la rédaction de Jet.
Mobilisation sociale et citoyenne,
écologie économie sociale et solidaire, en pays nantais et au-delà.
Mégaphone, le magazine de la rédaction de Jet.
Tous les mercredis à 18h et sur jetfm.fr.